France Culture, 7h-9h, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Une France en rouge, rouge de chaleur, rouge de sécheresse. Après un mois de juillet considéré par Météo France comme le plus sec depuis une soixantaine d'années, voilà donc la canicule. Hier, nous en étions à 146 arrêtés de restrictions d'eau pris dans 72 départements. La répétition de ces épisodes de sécheresse nous renvoie à la question de l'adaptation de notre agriculture au changement climatique, souligné il y a quelques jours le ministre de l'Agriculture. Cette adaptation sera au cœur de notre plan de relance, a poursuivi Julien de Normandie. La question n'est pas nouvelle, mais reste donc d'actualité. Comment l'agriculture peut-elle s'adapter? Deux invités avec nous ce matin. Félix Lallemand, bonjour.
Bonjour.
Docteur en écologie et évolution du Muséum national d'histoire naturelle. Vous êtes cofondateur de l'association Les Greniers d'Abondance, qui travaille sur les voies de résilience des systèmes alimentaires. Nous en parlerons, bien sûr. Et Sylvain Ratto en ligne avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éleveur de vaches charolaises dans la Nièvre. Vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne dans ce département qui fait partie de ceux qui connaissent une sécheresse sévère actuellement. Et justement, nous allons commencer avec vous, peut-être pour planter le décor, si l'on peut dire. Décrivez-nous ce qu'il y a autour de vous, la manière dont se traduit cette sécheresse.
La sécheresse se traduit aujourd'hui sur ma ferme tout simplement par un grand tapis jaune sur tout l'herbage, des rivières à sec. C'est des animaux qui ont faim aujourd'hui, où nous sommes obligés de taper dans nos stocks hivernaux déjà. Il faut savoir que nous traversons la quatrième sécheresse de suite, qui nous pose des gros problèmes sur la nourriture de nos animaux.
Félix Lallemand, des témoignages comme celui-ci, il y en a partout, presque partout en France, et c'était déjà le cas effectivement l'an dernier et d'autres années encore auparavant. Cette situation, elle est devenue, on va certainement pas dire normale, mais en tout cas habituelle, récurrente. Et les agriculteurs, peut-être est-il important de le rappeler, en sont les premiers témoins et les premières victimes.
Oui, tout à fait. C'est effectivement, on est en train de basculer dans un nouveau monde, une nouvelle norme, où les sécheresses exceptionnelles d'il y a 30, 40 ans deviennent aujourd'hui récurrentes. Et ça présage, malheureusement, enfin, tout ça va ne faire qu'empirer, parce qu'on sait qu'on a déjà émis trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et le réchauffement est parti. Et en gros, d'ici 2050, on sera vraiment dans des niveaux de sécheresse moyens des sols qui sont équivalents aujourd'hui à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais pour toutes les années. Et donc les sécheresses exceptionnelles en 2050 seront des événements inédits qui n'ont pas d'équivalent aujourd'hui et qui seront potentiellement très destructeurs pour l'agriculture. Ouais.
Alors, il y a quelques jours, le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, a décidé d'autoriser les éleveurs directement affectés par cette sécheresse à utiliser les surfaces en jachère pour faire pâturer leurs troupeaux ou faucher pour produire du fourrage. Ça vous concerne, Sylvain Ratto? C'est une mesure d'urgence, mais une mesure nécessaire?
Mesure totalement inefficace. Aujourd'hui, les jachères, comme le restant des prairies, ont complètement brûlé. C'est de la paillasse. C'est ne pas réfléchir. C'est une mesure, une fois de plus, qui est arrivée beaucoup trop tard. Comme tous les ans, on la connaît, l'autorisation de faucher ces jachères ne sert strictement à rien. Et en plus, c'est limite de l'inconscience aujourd'hui d'aller faucher des jachères pour mettre le feu partout avec les outils. Le frottement d'une faucheuse sur ces jachères complètement sèches, à part mettre le feu dans les bois environnants ou avoir de gros dégâts supplémentaires sur l'environnement, ne suffisent pas. Et faut-il encore avoir des jachères sur les fermes? Sur une ferme comme la mienne, qui est quasiment que de l'herbage et très peu de culture, il n'y a pas de jachères, par exemple.
Alors, vous nous disiez en préparant cette émission, Sylvain Ratto, il est fou de se dire qu'on s'habitue à ce que tous les étés soient reconnus comme calamité agricole. Là, vous nous dites effectivement mesure trop tard, inefficace. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Déjà, de toute façon, ce qu'on fait, il est temps de prendre en compte, j'entendais votre autre invité dire, ces sécheresses sont devenues récurrentes par le réchauffement climatique il y a 15 ans. Alors oui, je suis le porte-parole de la Confédération paysanne. Il y a déjà plus de 15 ans que l'on dénonçait ce réchauffement climatique où rien n'a été fait. Et aujourd'hui, j'ai toujours l'impression que rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique de manière globale. Bien sûr, l'agriculture a un impact, mais il n'y a pas que l'agriculture. Et quelle agriculture on veut aussi? Si c'est une agriculture qui reste fermière ou si c'est une agriculture industrielle qui est beaucoup plus dramatique sur ce réchauffement-là.
Alors Félix Lallemand, justement, je disais, donc avec votre association Les Greniers d'Abondance, vous travaillez sur la résilience alimentaire locale. Qu'est-ce que c'est et en quoi cela pourrait être une réponse à des situations comme celles que nous vivons cet été?
Alors la résilience, c'est la capacité d'une société, par exemple, à encaisser des chocs, à maintenir son fonctionnement normal malgré des perturbations. Et donc nous, on l'applique vraiment à la question de l'alimentation. Donc la résilience alimentaire, c'est comment on fait pour garantir la sécurité alimentaire dans les territoires, dans un contexte donc de perturbations climatiques, mais aussi énergétiques, un contexte de déclin de la biodiversité, de problèmes politiques et sociaux qui sont là aussi en train de s'accentuer. Comment on fait dans ce contexte-là pour maintenir, garantir la sécurité alimentaire?
Et donc, en quoi ça pourrait être une réponse face, par exemple, à la sécheresse, aux problèmes posés par la sécheresse, comme on le voit en ce moment?
Disons que au sein de notre approche se pose la question donc de l'adaptation au changement climatique, aux pénuries d'eau à venir et tout ça, mais ça va beaucoup plus loin. On essaie de regarder toutes les dimensions du système alimentaire, depuis la gestion du foncier à la production agricole, en passant par la transformation agroalimentaire, la distribution des produits qui aujourd'hui est très dépendante du pétrole, jusqu'au bouclage des cycles du nutriment. On essaie de voir comment tout ça, on doit le transformer pour répondre justement aux enjeux actuels qui font que les conditions de production et les conditions générales qui seront les nôtres dans une trentaine d'années n'auront rien à voir avec celles d'aujourd'hui et que le système aujourd'hui ne sera pas adapté à ce nouveau contexte. Donc il est impératif, dans des mesures donc de garantir la sécurité alimentaire, de le transformer en profondeur.
Parce que c'est ce que disait Sylvain Ratto en ce qui concerne en tout cas la sécheresse. Clairement, les agriculteurs sont en première ligne, mais en vérité, cela vient bien au-delà de l'agriculture. Il y a toute une question aussi d'aménagement du territoire, d'étalement urbain, avec les sols qui deviennent imperméables. Donc il faut penser au-delà, bien évidemment, de notre système agricole.
Ouais, bien sûr, et il a aussi très bien expliqué que la première chose, enfin que ces situations-là doivent nous faire mesurer, c'est qu'on est en train d'aggraver le problème. On n'est toujours pas aujourd'hui en train de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, sauf cas de crise sanitaire très particulier. Mais là aujourd'hui, on s'est toujours pas mis en ordre de marche pour vraiment s'attaquer au problème du réchauffement climatique. Et donc tout ce qu'on fait, c'est aggraver les risques futurs. Donc il y a vraiment ce sujet-là qui est absolument central. Et après, évidemment, l'adaptation à ce qui aujourd'hui est inévitable rentre aussi en ligne de compte.
Alors face à ces sécheresses, en tout cas qui se multiplient et vont se multiplier, on le sait, on parle de bataille de l'eau, voire de guerre de l'eau. Julien de Normandie a dit il y a quelques jours, pour permettre d'avoir l'eau l'été, il faut capter l'eau de l'hiver. C'est aussi simple que cela, c'est le bon sens qui nous anime. Donc il parle des fameuses retenues d'eau qu'on appelle aussi parfois bassines. Il estime qu'il en faut de plus massives et déplore que cela prenne du temps parce qu'il y a toujours une palanquée de recours. Je le cite. Quel est le problème, Sylvain Ratto, avec les retenues d'eau et pourquoi tout le monde ne considère pas, comme le ministre et d'autres, que c'est du bon sens?
Alors, je voudrais revenir juste sur un point aussi sur la gestion inévitable aujourd'hui des sécheresses. On peut éviter certaines choses, notamment quand on parle d'alimentation, c'est d'arrêter les méthaniseurs aujourd'hui qui consomment de la surface agricole, qui ne vont plus du tout ni dans l'alimentation animale et par écoulement, par l'alimentation humaine. À côté de chez moi, j'ai des méthaniseurs où aujourd'hui on laisse pourrir du foin au milieu des prés pour les faire avaler par un méthaniseur. Ça, c'est un premier point. Sur la bataille de l'eau et les retenues collinaires, j'entends cette eau qui s'écoule l'hiver et qu'on pourrait stocker. Mais cette eau, elle a un autre but aussi. Elle a un but de remplir les nappes phréatiques l'hiver pour que cette eau puisse être utilisable l'été, notamment pour les rivières et pour la gestion de la biodiversité. Donc les retenues collinaires, certes, si c'est un peu de retenue pour irriguer des plantes à forte valeur ajoutée, telles les maraîchages et ainsi de suite, oui, et elle peut être nécessaire. Mais si c'est pour faire encore des plus grandes étendues de maïs que l'on sait qui sont une catastrophe pour l'environnement, on va continuer encore à aggraver le système.
Félix Lallemand, là-dessus, sur cette question des retenues d'eau, qui est vraiment la bataille, on nous dit la bataille de l'eau cet été, avec effectivement d'un côté un ministre et par exemple aussi la FNSEA, le syndicat majoritaire, qui plaide pour cette solution, et de l'autre, effectivement, cela crée des conflits, parfois vraiment, sur les territoires où il en est question, et c'est contesté, on l'entend avec Sylvain Ratto. Vous, quelle est votre approche là-dessus?
Bah, ça ressemble un peu à certains débats qu'on peut avoir sur l'énergie, c'est-à-dire que le problème n'est pas forcément bien posé, dans le sens où on ne s'interroge pas déjà sur nos besoins en eau d'irrigation, et on voit bah, aujourd'hui la moitié à peu près de l'eau qu'on utilise dans les champs sert à faire pousser du maïs dit grain, donc à faire des grains de maïs qui derrière vont nourrir principalement de la volaille, des cochons, éventuellement un peu de ruminants. Et c'est pas forcément la meilleure utilisation qu'on peut faire d'une ressource précieuse qu'est l'eau, parce que derrière, bah, en passant par des animaux pour nourrir les humains, on a une perte en calories qui va jusqu'à 80%, donc ça rend pas la sensation. Vous avez poussé du blé dur, du tournesol, du pois chiche ou quoi sur ces terrains au lieu du maïs pour aller nourrir les bestiaux, on aurait une utilisation beaucoup plus efficace de la ressource d'un point de vue de la sécurité alimentaire humaine. Donc déjà réfléchir à la base aux besoins avant de voir comment on va les régler, parce que c'est plutôt en faisant des retenues collinaires, plutôt en stockant dans les nappes et tout ça, ça me semble être la priorité.
Sylvain Ratto, on vous entend tous les deux là, vous parlez du maïs, mais donc en gros, est-ce que ça veut dire que face à cette situation qui évolue, qui devient de plus en plus difficile, faut-il carrément renoncer à certaines cultures, et dans ce cas, que deviennent ceux qui les pratiquent, qui font du maïs par exemple?
Mais pas forcément renoncer à certaines cultures, c'est regarder où est-ce qu'on peut le cultiver sans avoir un grand impact. J'ai envie de vous dire, sous la forme d'humour, on a besoin de maïs pour faire du foie gras, et demain j'ai pas envie de me priver du foie gras. Mais regarder, va pas faire du maïs par exemple pour de l'export massif, où l'on sait aussi que sur les pays du Sud, on tue leur agriculture en exportant. C'est relocaliser des productions. Je parle à Radio France ce matin. Est-ce qu'il est normal que le bassin parisien ne nourrisse pas la région parisienne, que la plupart des cultures servent à l'export? Il faut relocaliser, et par là, on arrivera à maîtriser tous ces circuits-là.
Alors là, justement, Félix Lallemand, on est en plein aussi dans le sujet, parce qu'avec la crise sanitaire est revenue la question aussi de la souveraineté alimentaire. Et donc, il y a cet éternel débat en même temps. A-t-on les moyens de nourrir tout le monde sans dépendre trop des autres et sans faire de l'intensif?
Ah, la question, si on en a les moyens... Oui et non, c'est en fait la question de la souveraineté alimentaire, elle n'est pas forcément la même que celle de l'autonomie alimentaire. La souveraineté, c'est plutôt est-ce qu'on est décisionnaire dans ce qu'on a la main en tant qu'habitant d'un territoire sur la façon dont notre nourriture est produite et consommée. La question de l'autonomie, elle est plus dans les moyens de production pour faire notre nourriture, ce qu'on a la main dessus. Et aujourd'hui, on voit bien que non, parce qu'on est en fait très dépendant de ressources exogènes extérieures à la France, typiquement les énergies fossiles, qui aujourd'hui sont au cœur du système alimentaire, que ce soit pour fabriquer les engrais azotés, pour faire rouler les engins dans les champs, ou simplement pour transporter les marchandises agricoles et la nourriture partout sur le territoire. Pareil, on va dépendre de mines de phosphate au Maroc, on dépend de main-d'œuvre étrangère, on l'a vu aussi pas mal pendant la crise sanitaire. Donc il y a plein de liens de dépendance qui font qu'aujourd'hui on n'est pas autonome, mais c'est pas forcément grave, il faut avoir conscience des limites aussi de cette approche-là. Mais en tout cas, essayer dans les territoires de répondre aux besoins de base de la population avec les productions locales, ça semble être une approche plutôt de bon sens, et en tout cas garantir au moins une sécurité de base, c'est un des facteurs de résilience essentielle qui nous semble important de développer. Ouais.
Sylvain Ratto, cela fait des années tout de même maintenant que l'on entend il faut s'adapter, et du reste beaucoup disent que c'est déjà le cas. Même la FNSEA, qui n'est pas forcément sur la même ligne que vous à la Confédération Paysanne, dit on s'adapte, mais voilà, ça prend du temps, ça coûte de l'argent aussi. Or, on sait qu'énormément d'agriculteurs ont déjà du mal à vivre, à se payer, sont très endettés.
Oui, bien sûr, avec un revenu moyen aujourd'hui des paysans, moi je le constate, hein, je n'ai rien à cacher, entre 300 et 500 euros par mois, il est très compliqué de s'adapter, il est nécessaire de réfléchir aussi à des systèmes beaucoup moins intensifs pour pouvoir s'en sortir. Mais c'est trouver le juste équilibre entre un système qui est intensif et un système extensif, mais qui puisse aussi payer les charges, des charges de fermage, des charges... Moi, je ne parlerai pas de cotisations sociales trop chères ni rien, juste payer des charges opérationnelles ou des charges de structure. Et ça, c'est très, très compliqué à adapter. Et on n'a pas la prétention, autant à la Confédération Paysanne que n'importe qui, de dire qu'on a la solution d'un claquement de doigts. Mais c'est vraiment d'adapter des systèmes, de regarder. Pourquoi pas regarder aussi, même si je suis très attaché à mes vaches charolaises, à cette race qui est qui est la race de ma région, mais regardez sur d'autres races plus résistantes, peut-être moins consommatrices aussi en herbe. Et puis regardez aussi, c'est ça que je voulais dire, moi je l'ai aujourd'hui, je l'expérimente sur la ferme, des contrats avec d'autres voisins, notamment céréaliers, pour la production de nos protéines en, je dirais pas en circuit court, mais entre voisins, plutôt que d'apporter des protéines de l'autre bout du monde.
C'est-à-dire pour s'organiser entre vous et pour effectivement raccourcir les distances et s'entraider quelque part.
Voilà, ben bon, pour être juste technique deux secondes, un de mes voisins céréaliers qui produisait du colza aujourd'hui a décidé de retirer le colza de sa rotation et faire de la luzerne qu'il met à disposition, bon, qu'on achète bien sûr ou qu'on échange par le fumier, de la luzerne à disposition d'éleveurs.
Sylvain Rateau, là, donc le ministre Julien de Normandie dit qu'il va y avoir des mesures dans le cadre du plan de relance. Vous, il y a deux choses, c'est-à-dire il y a l'urgence là de cet été, vous nous avez décrit ce qu'il y a autour de vous, et il y a effectivement cette adaptation, ce besoin d'adaptation, donc plus de moyens long terme. Comment on négocie les deux et qu'est-ce que vous attendez justement avec cette double exigence? Qu'est-ce que vous attendez de mesures qui seraient comprises dans le plan de relance?
Ben, comment on concilie les deux? Pour l'instant, j'ai envie de vous dire, tous les matins, on pallie au plus rapide à nourrir nos animaux et ainsi de suite. Et puis sur le long terme, alors je le redis et je l'ai dit en début, ce n'est pas qu'une problématique agricole, c'est d'agir au plus rapidement possible sur ces réchauffements climatiques, maintenir des arbres aussi dans les pâtures, puisqu'on sait très bien que le sol se réchauffe beaucoup moins vite avec plus de végétation et de couvert. C'est protéger les alentours de rivières pour éviter le réchauffement de l'eau, ça joue énormément. Sur la ferme, moi j'ai fait clôter tous les bords de rivière et pour éviter que les animaux aillent dedans ou dégradent les embages. C'est des petits gestes au quotidien comme ça qui devraient se faire, mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Il y aura besoin d'une grosse adaptabilité des paysans, de la société qui doit l'entendre aussi, où on a besoin des paysans sur le territoire pour l'entretien. Mais oui, je vous dis, aujourd'hui, on gère au quotidien comme on peut.
Aujourd'hui, vous gérez l'urgence comme l'été dernier, finalement, et comme ceux d'avant, quoi.
Comme l'été dernier, comme l'été d'il y a 3 ans, et comme l'été d'il y a 4 ans, puisque nous, on entre dans une 4e année de sécheresse. Et j'ai une pensée pour mes voisins morvandiaux, par exemple, qui, eux, sont sur des terres beaucoup plus rocailleuses, où, avec des sécheresses successives comme ça, l'herbe ne repart pas au printemps.
Et je crois que vous venez seulement de toucher vos aides pour la sécheresse de l'an dernier, c'est ça?
On a fini de toucher la calamité agricole, effectivement, au mois de juin, si je ne vous dis pas une bêtise. Je n'ai pas mes relevés de compte devant mes yeux, mais ça doit être au mois de juin.
Alors, début juin, Félix Lallemand, deux députés, Frédéric Tufnel et Loïc Prudhomme, ont présenté un rapport d'information sur cette question de l'eau, la ressource en eau. Loïc Prudhomme, par exemple, veut une tarification progressive de l'eau et des amendes plus fortes en cas de récidive pour un agriculteur qui arroserait les cultures alors qu'il n'en a pas le droit. Est-ce que ce type de mesure peut vraiment être une réponse?
Les mesures de type garantir, disons, un niveau minimum, puis après avoir vraiment une tarification très forte sur, dès lors qu'on n'est pas ça, pourquoi pas. Je pense qu'il y a d'autres mesures qui sont intéressantes, notamment tout ce qui relève un peu de des contrats de société entre les agriculteurs et les mangeurs, les territoires dans lesquels ils vivent. Ou j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est dans le Pays Basque où des agriculteurs ont lancé une filière blé, farine, pain locale, où en gros certains faisaient du maïs irrigué puis se sont mis finalement à faire du blé pour cette filière là en ayant des contrats qui leur garantissaient un niveau de revenu suffisant pour se lancer, où derrière tout a été organisé avec la filière pour que ça marche bien. Donc je pense que ces relations là marchent aussi de manière efficace.
Merci Félix Lallemand, docteur en écologie et évolution du Muséum National d'Histoire Naturelle, cofondateur de l'association Les Greniers d'Abondance, et merci à vous Sylvain Rateau, éleveur de vaches, porte-parole de la Confédération Paysanne dans la Nièvre. Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin. Le journal dans un instant.